la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein à votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Par le bout de la lorgnette. C'est exactement la 54e avec un nez un peu bouché, vous l'entendez. Et je ne suis pas le seul à avoir le nez bouché ici autour de cette table, car il y a avec moi Héloïse. Salut Héloïse.
Salut tout le monde.
Ouais, ça va encore.
Oui, ça passe bien.
Ça passe mieux que moi. Ok, salut Valérie.
Salut.
Ouais, Valérie, elle triche.
Non, c'est pas vrai, je pète le feu.
Ouais, tu pètes le feu. Salut Popo.
Salut tout le monde.
Popo aussi, elle
grande
pète le
forme.
Feu.
Oui.
Et ouais, on parle de BD, c'est sympa, car aujourd'hui, c'est un choc entre notre ami Manu Larcenet et notre ami qui s'appelle Lupano, et de son prénom
Wilfried.
Wilfried, c'est bien, il y en a qui suivent. Ouais. Hein, Valérie ?
Oui.
On t'a pas entendu dire son prénom. Alors, pourquoi déjà ces deux auteurs, Héloïse ?
Parce que c'est les deux auteurs qui ont vraiment le vent en poupe en ce moment. Ça fait partie, dès qu'ils sortent une BD, ça fait partie des meilleures ventes. Et voilà, c'est vraiment les deux auteurs à suivre en ce moment.
Alors, on va peut-être faire une petite biographie de ces
oui,
deux auteurs pour
plaisir,
commencer.
Oui.
Allez, alors tu vas nous en faire une et Valérie va nous faire l'autre parce qu'elle a préparé.
Bien sûr.
Non, je déconne.
On va commencer par Manu Larcenet. Il est né en 69, il est scénariste et dessinateur. Il a travaillé de 1994 à 2006 chez Fluide Glacial, tout en publiant des choses plus personnelles aux éditions Les Rêveurs. Il a un esprit assez punk, un humour de l'absurde et assez noir. Il a eu le Fauve d'Or à Angoulême pour sa BD Le Combat Ordinaire, qui est sortie en 2004, BD qui a été elle-même adaptée au cinéma. Voilà. En ce qui concerne Lupano, donc il est né en 71 et lui, il est seulement scénariste, il dessine pas. Alors lui, il a fait pas mal d'études assez diversifiées. Il a fait de la philo, il a fait une licence d'anglais, baccalauréat littéraire. Après, son imagination est assez débordante et il explique ça par le fait qu'il a pratiqué beaucoup les jeux de rôle, en fait, vous voyez, un peu comme Dungeon Quest ou des choses comme ça. Quand il était jeune, il était souvent le maître du jeu. Et quand on est le maître du jeu dans les jeux de rôle, et ben voilà, on invente tout un tas de situations, on développe le scénario du jeu. En
fait. C'est pas celui qui est puni qui est maître du jeu ? Parce que tu joues pas quand t'es maître du jeu.
Ouais, mais...
C'est les autres qui jouent, en fait.
Ouais, mais tu lances le tout, c'est au contraire. Ah
ouais.
C'est...
J'ai jamais joué.
Tout peut partir dans tous les sens grâce
J'ai failli à une soirée, j'ai rien compris. Quoi.
Mais c'était pas le même cartes, genre de...
Je sais pas ce que c'était, mais j'ai jamais compris. Enfin bref.
Donc voilà, bah lui, il dit que ça, entre autres, ça lui a permis de développer son imaginaire et son talent de raconteur d'histoire. Il s'inspire aussi beaucoup de son environnement, des soirées, des gens auxquels il assiste, auxquels il rencontre. Et du cinéma aussi, les fans de western, etc. Voilà.
Alors, tu ne nous as pas donné leur nationalité parce que, par exemple, notre ami Larcenet, j'ai lu quelque part qu'il était franco-belge, donc je ne sais pas comment on peut être franco-belge. Il vient d'où
Non, il est français,
il est français,
né à Issy-les-Moulineaux.
D'accord, alors je ne sais pas pourquoi ils ont parlé de Belgique.
Comme tout le monde le sait, en Belgique.
Ouais, voilà. Donc, tous les deux français, ok.
Tous les deux français, et donc, pour Manu Larcenet, ce qui a vraiment beaucoup marché ces dernières années, c'est la série Blast, une série en 4 tomes chez Dargaud. Énorme vente. Et pour Wilfried Lupano, évidemment, c'est une série qui s'appelle Les Vieux Fourneaux, chez Dargaud également.
On en avait parlé dans une émission
des Vieux Fourneaux. Fourneaux.
Ouais, tout à fait.
Ouais, c'était Valérie ou Nico, peut-être. Nico il partait en...
Oui, c'est Nico qui avait parlé du premier tome, effectivement.
Exactement.
Et donc, il y a le numéro 4 qui sort en novembre, là, pour Noël, et ça va être le gros succès de Noël, je pense.
Très bien. Allez, qui veut commencer Tiens, mais Les Vieux Fourneaux, je vois un livre, une BD Les Vieux Fourneaux posée sur cette table. Qui a lu ça?
On les a toutes lues.
D'accord. Non, pas moi.
C'est vrai. Toutes. Elle a dit toutes.
Et alors?
C'est pour ça.
Laisse mon côté féminin.
Mais voilà. Tant que tu ne liras pas Les Vieux Fourneaux, tu ne pourras pas...
Très bien. Bon, on va passer à autre chose alors. Tiens, qui nous parle de Larcenet, Popo?
Larsenet, ok.
Alors, as-tu lu des livres de Larsenet pour cette émission ?
Ouais, j'en ai lu pour l'émission et en fait j'en avais déjà lu avant. Et l'image que j'avais de Larsenet, en fait j'avais lu d'abord, tu m'as rappelé le titre, Héloïse.
Le retour à la Terre, voilà. Ouais, si tu veux en parler,
le retour à la Terre, bah ouais, parce que ça a été vraiment le choc entre le retour à la Terre, qui est en fait l'histoire, je pense, inspirée de sa vie. De la vie de Larsenet quand il s'est installé en campagne, qu'il a quitté la région parisienne et qu'il s'est installé en campagne. Et donc, il rapporte avec de l'humour, c'est sympathique, tout un peu, toute la vie de campagne, les clichés de la campagne, et puis qu'il mélange un peu avec sa vie d'écrivain isolé dans la campagne française. C'était plutôt sympa, un humour... voilà, sympathique, c'était vraiment le mot, les couleurs étaient vives, c'était joyeux, enfin voilà, c'était une lecture plutôt agréable. Et là, dans le cadre de l'émission de Larsenet, j'ai lu deux BD, j'ai lu Presque, qui est en fait son histoire à l'armée, ce qu'il a vécu à l'armée, qui a été très dur puisqu'il était dans un régiment, voilà, qui était quand même assez violent. Il a souffert. Donc, c'est une BD qui est ultra sombre. C'est que du noir et blanc. C'est très gribouillé. C'est plein de, c'est très violent et très, très, très sombre. Et du coup, ça a été un peu un choc par rapport à ce que je connaissais, moi, de Manu Larsenet. Bon, c'était pas énorme, hein. Ce que je connaissais, c'était trois tomes d'une même série. Mais du coup, il a des styles très, très différents. J'ai lu aussi pour l'émission
chez Francisque.
Voilà, chez Francisque, qui sont un peu des chroniques de café, des brèves de comptoir, des petites histoires sur une page qui abordent le racisme, l'homophobie, enfin voilà, tous les clichés de discussion de bar qu'on peut imaginer autour d'un verre de Picon, de Ricard et de voilà tout ce qu'on veut. C'est assez gras, c'est assez
plus esprit et fluide glacial.
Ouais, on est plus dans le fluide glacial.
Alors après,
ouais.
Chez Francisque, Larsenet fait que les dessins et le scénario, c'est son ami Lindingre qui a fait tout ce qui est dialogue et texte. En fait. Voilà.
Et donc, il a quand même, voilà. Moi, ce que j'en ressors, c'est surtout qu'il a des facettes très différentes. Il est capable de faire des choses hyper variées, tant dans le dessin, parce que dans le retour à la Terre, il fait le dessin aussi, il me semble. Et voilà, il fait des trucs ultra différents selon le contexte. Et ça, c'est quand même plutôt étonnant. Après, on n'aime pas ça. Mais en tout cas, il a cette richesse-là d'être ultra varié, quoi.
Oui, il va pouvoir nous faire rire et puis nous faire pleurer. Moi, je connaissais pas rien.
On pourrait creuser sur la BD dont tu parlais, sur Presque, qui parle effectivement de son service militaire. À l'époque, quand les hommes étaient obligés de faire un an de service militaire. Et oui, toi, tu y as échappé grâce à M. Chirac, non ?
Oui, parce que j'étais le dernier à partir, en fait. Je devais partir en régiment d'infanterie. Jusqu'à ce que... Mais après, j'ai fait des études, moi. Donc, j'ai attendu. J'ai fait semblant de faire des études pour y échapper. Mais je suis encore mobilisable. Si demain, il y a la guerre, je ne suis pas...
Mais encore heureux.
Non, mais ça me rassure.
J'ai pas de notion.
C'est pas grave, t'apprendras vite.
Apprendre à me cacher, ouais.
Pardon.
C'est pas drôle, presque.
Non, absolument pas.
Ah, j'avais toujours l'impression qu'il y avait toujours une pointe d'humour derrière.
En fait, le volume qu'on a lu, c'est une réédition. Je crois que c'est la 8e réédition de l'œuvre originale où il raconte son service militaire. Et c'est vrai qu'autant la couverture peut être très engageante parce que c'est un superbe dessin d'un jipette barbu. À pâte blanche.
Qui est un oiseau.
Voilà, qui est un oiseau. Autant l'intérieur est très, très noir, très sombre. Il raconte son service militaire, mais tu as envie de pleurer à toutes les pages. Tu as juste envie d'aller le sauver.
Ça ne m'étonne pas.
Non, mais il a une souffrance. Moi, je connais des tas de personnes qui ont fait le service militaire et qui n'ont pas forcément été très enchantées, mais qui ont quand même retiré un peu de positif. Là, c'est une torture. Et pendant toute la BD, tu as envie d'aller le sauver. À la fin, on retrouve la petite touche d'humour après donc le fichier original donc de Presque, vraiment son aventure au service militaire. Après, il se met en scène en fait où il rencontre quelqu'un où il explique pourquoi est-ce qu'il a fait cet album et c'est un peu décalé, c'est assez humour et là on retrouve un peu le Larsenet de chez Francisque. voilà, il va redonner un peu le sourire, mais le livre en lui-même, c'est très touchant. Moi, c'est la première fois qu'une BD en si peu de pages me tire les larmes des yeux. Enfin, c'est puissant.
C'est vrai que la qualité du texte aussi est assez remarquable, oui, parce qu'il arrive vraiment à provoquer, comme tu dis, des émotions par le dessin et à la fois par le texte et par... Et à vraiment communiquer ce qu'il a vécu, sa souffrance et ce milieu assez... injuste, on va dire.
C'est ça. Et le dessin n'est pas... en fait, ce dessin, il l'explique quand il l'a dessiné une fois. C'est-à-dire, il ne s'est pas mis autour d'une table à gommer, à reprendre, à refaire des je sais pas comment on dit, des étiquettes, des planches. Il l'a fait en un seul coup, il l'a fermé, et il l'a remis à son éditeur. Il a dit, voilà, ce que je viens de faire, je ne le redessinerai pas, je le referai pas.
Il l'a même jamais relu. Ouais. Il l'a jamais relu ce qu'il avait fait sur son service militaire.
Et ça montre vraiment sa souffrance. Et c'est le dessin est dur. Enfin,
ouais, c'est moi vraiment
quand j'ai ouvert la BD, je me suis dit, mince, j'ai pas pioché la bonne. Ça va, je m'attendais à un truc plus sur les oiseaux et la nature, gay, rigolo, décalé. Waouh.
On se marre à l'armée.
Ouais.
Une grande famille à l'armée.
Bah justement.
Quelle année?
Là, c'est une réédition. Alors, je crois que la première, est-ce que c'était pas 88 de mémoire?
98.
Ah ouais, et donc là, c'est vraiment son recueil, mais qui est rediffusé. Et c'est vraiment à la fin où il rajoute un petit plus. Voilà.
Oui, voilà, où il dit à la fin, il explique pourquoi il a fait ça, comment ça lui est sorti des tripes, en fait, cette BD-là et cette histoire-là. Et mais il, en même temps, il n'a jamais trop compris la légitimité, en fait, de cette BD-là, de pourquoi elle en est quand même à sa 8e édition. Donc, ce qui veut dire que c'est quand même un succès. Mais il ne comprend pas pourquoi. Enfin, il ne comprend pas en quoi ça peut aider des gens. Et moi, je pense au contraire voilà, que c'est un témoignage sur une époque pas si lointaine et une histoire personnelle vraiment intéressante.
Puis vu en plus par lui, qui est quand même sur ses autres registres, c'est un peu le déconneur finalement, hein, sur ses autres BD, où, pleine d'humour, de couleurs. Là, on sent que vraiment, voilà, c'est comme si c'était un peu sa thérapie.
Tout à fait.
Ouais. Super. Bon, voilà, on voyait au gouvernement qui veut relancer le service militaire, mais en plus courant qu'un ou deux ou trois mois, je crois.
Et donc, c'est chez les Rêveurs, c'est sa toute première maison d'édition.
Voilà, tu peux nous dire un mot des Rêveurs, parce qu'il en parle beaucoup dans ses différentes biographies de cette maison d'édition. C'est quoi exactement?
Oui, c'est une maison d'édition de bande dessinée et de romans graphiques, d'illustrations. Il publie peu de titres par an. C'est eux qui ont soutenu Larsenet dans ses projets plus personnels et moins humour gras, fuite glaciale, etc. Alors après, bon, peut-être que toi, avec les branleurs, Ludo, tu vas nous en dire plus. Mais voilà, ils l'ont toujours soutenu. Ils ont noué une vraie relation éditeur-auteur enrichissante.
Ok, génial. Presque de Manu Larsenet, les Rêveurs. Comment vous voulez faire? Vous voulez qu'on passe de suite à notre ami Lupano? On continue avec Larsenet. Un petit Lupano. Allez, qui c'est qui veut présenter un Lupano?
Ah, moi, j'ai commencé avec Larsenet.
C'est vrai. Bah, allez, je vais présenter. je vais présenter à la place de Nico, qui est pas là, qui va peut-être arriver. On sait pas trop. Il a des choses à faire. On le connaît, Nico.
Il avait qu'à être là.
Voilà, c'est ça. Alors, par contre, c'est extrêmement compliqué à présenter. Ce livre, c'est le premier tome d'une série qui s'appelle Azimut, les aventuriers du temps perdu. Je vais laisser Valérie, qui a pas le nez bouché, lire la quatrième de couverture, parce que j'ai regardé un peu comment les personnes pouvaient le présenter sur Internet, dans les différents forums.
Ça fait un peu
tout le monde reprend la quatrième de couverture.
Donc je vais lire la quatrième de couverture.
Vas-y.
Quelque part dans le vaste Capharnaüm des mondes possibles, il en existe un où, plus qu'ailleurs, on reste profondément outré par l'idée de la vieillesse et de son issue tragique, la mort. Mais a-t-on la possibilité d'y échapper? Ailleurs, peut-être pas, mais dans ce monde-là, il est permis de le penser. C'est en tout cas la théorie du vieux professeur Aristide Breloquinte qui occupe son temps à étudier les caprices du temps à bord du Laps, son navire laboratoire. C'est aussi l'avis de la belle Maniganza qui semble convaincue que le temps, c'est de l'argent, et même des espèces sonnantes et trébuchantes. Chimère, diront certains, non-sens, diront les autres, accompagné d'une myriade de personnages fantastiques, embarqué pour un fabuleux voyage qui vous amènera tout autant dans les sphères éthérées de l'imagination qu'au cœur des préoccupations existentielles humaines.
Donc voilà, c'est pas très compréhensible, mais l'expliquer, c'est extrêmement compliqué. C'est une bande dessinée fantasy qui est excellente, excellente de par son dessin, de par ses couleurs, de par son scénario. Mais c'est un scénario, voilà, tu parlais de Star Wars. C'est pas Star Wars, mais c'est ses esprits de scénario où ça se passe à plein d'endroits différents, avec plein de personnages différents. Donc sur un premier tome où ça commence juste à se poser, pouvoir l'expliquer, c'est un peu compliqué. Voilà, ça se passe au royaume de Ponduche. Alors la mère fugue quand bon lui semble. On voit un personnage qui part découvrir un nouveau continent, et quand il arrive, il se rend compte qu'il revient à son point de départ. Pourquoi ? Parce que le nord a disparu. Donc il n'y a plus aucune boussole qui indique le bon nord, donc le bon sud, le bon ouest ou le bon est, et on ne sait pas pourquoi. Donc ça, c'est un drap, on ne le sait même pas sur ce premier tome, si ce n'est que peut-être qu'un des personnages l'a volé. Mais on n'en sait pas plus, c'est que le début de l'histoire.
T'as des humains et des personnages autres.
Alors il y a des humains, des robots, il y a des... alors je ne sais pas comment ils l'appellent, je ne l'ai pas noté, des sogs ou des sugs, c'est des personnages qui naissent... de robots qui peuvent prendre la forme de lapins, qui peuvent prendre la forme d'autres personnages et qui vont aider le maître qui les découvre. C'est un peu du Lewis Carroll, quoi. On est un peu dans Lewis Carroll à la recherche du temps. On sait qu'il y a une histoire avec ce temps. Il y a des bêtes qui sont fabriquées, qui sont donc sous forme de libellules, sous forme d'oiseaux, etc. Qui... Oui, Valérie.
Mais non, tu crois que c'est par rapport au lapin que tu trouves que ça fait Lewis Carroll ou
Non, c'est non. Par rapport au temps. C'est à la recherche du temps. On essaye d'acheter du temps. Mmh. On essaye de fuir la mort. Voilà, il y a un arracheur de temps qui fait peur à tout le monde, qu'on voit arriver à la fin de ce premier tome, mais ça c'est pas encore imbriqué, donc c'est un peu compliqué d'en parler, parce qu'il aurait fallu que je lise plusieurs tomes pour vous raconter un peu l'histoire vue de la globalité. Là, on fait juste un focus sur les personnages, mais on finit ce livre, on a vraiment envie de lire les autres pour pouvoir s'intéresser à cette histoire.
Il y en a plusieurs de sorties déjà ?
J'imagine, il y en a trois. Il y en a trois, et j'imagine que ce n'est pas fini aussi, Héloïse. Il y en aura plus que trois, peut-être.
Oui, je pense. Après, c'est vrai, c'est le problème aussi avec les auteurs qui sont surbookés, c'est-à-dire qu'ils entament des séries, et après, ils n'ont pas forcément le temps pour les continuer à un rythme auquel le lecteur s'attendrait. Donc là, ça fait longtemps qu'il n'y a pas un tome d'Azimut qui est sorti, parce que Lupano est très pris.
Ah. Eh bien, c'est son ami Jean-Baptiste Andréae qui écrit l'histoire, qui doit être ravi d'attendre que Lupano puisse dessiner.
Attends, Lupano, il écrit, non ? Il dessine pas ?
Il écrit, donc c'est, pardon, c'est le dessinateur.
Oui.
C'est un excellent dessinateur, finesse, précision de traits, de très belles couleurs. Et on voit que Lupano, enfin, à mon avis, il a déjà l'histoire globale dans sa tête. On attend qu'il écrive, mais c'est vraiment un monde fantasy fantastique, excellent. Voilà, ça. On voit ça, on se dit ouh, ben ça va appeler un film, comme souvent dans ces livres fantasy.
Donc, tu as bien accroché.
J'ai bien accroché, ouais.
Et
ouais,
Nico
ouais.
Aussi, du coup ?
Et Nico, je ne sais pas.
Ok.
Voilà, il ne m'a pas dit... je lui ai juste dit, bouh, j'ai préféré Les Branleurs aux deux livres que tu m'as prêtés. Mais Les Branleurs, on en parlera tout à l'heure, c'est pas le moment. Valérie, Héloïse nous a expliqué dans la présentation que Lupano était fan des westerns.
Ouais, eh bien écoute, moi je connaissais pas les westerns. Du reste, j'en discutais avec des amis qui sont fans de westerns il y a pas très longtemps. Je me suis fait huer de n'avoir jamais vu un western dans ma vie.
Je n'ai jamais vu un western.
Voilà. Et comme quoi les choses se répètent.
Je ne sais pas où, je suis pareil. Je crois.
Par contre, toi qui n'as jamais vu de western, tu as lu aussi L'homme qui n'aimait pas les armes à feu. Mmh. Un western dont le personnage principal est un gentleman irlandais. Donc tout se passe dans le désert mexicain. Et donc on est vraiment sur une affaire de vol, d'espionnage, de gens qui s'associent avec d'autres personnes, avec vraiment tous les personnages qu'on retrouve dans les westerns. La fille qui va voyager en diligence très, très légère, le Mexicain qui a un gringo pour lui garder son trésor, et notre gentleman irlandais qui aide... Alors, je ne sais plus, il est quoi ? Il est ukrainien, non ? Le grand baraque.
Ouais. Ça doit être quelque chose comme ça, ouais, oui. Pays de l'Est.
Et c'est hilarant parce que, bon, déjà rien que le titre, L'homme qui n'aimait pas les armes à feu, bon, c'est très drôle d'avoir ce titre-là.
Et c'est l'Irlandais, du coup, L'homme qui n'aimait pas les armes à feu.
Oui. C'est lui, ouais.
D'accord. Voilà, le dandy, un peu.
Voilà, c'est ça, ouais. tout de gentleman, ça. Voilà. Là, sur la couverture, on voit des Mexicains perchés sur des chevaux à tirer en l'air avec des armes à feu. Lui est assis devant sur une table avec une jolie porcelaine anglaise en train de boire une tasse de thé. Voilà, en levant le petit doigt, of course.
Le contraste entre lui et le monde qui l'entoure, là, ce monde western, c'est super rigolo, c'est super bien fait. Il a cette attitude tout le temps.
Distinguée.
Oui, très distinguée en toutes circonstances. C'est assez drôle. Il est sympathique, ce personnage.
Qu'est-ce qu'il fait? Il est son but
détective. Hein. Il recherche un papier, mais ça, on le découvre au fur et à mesure, qui serait caché par. C'est un portefeuille, une sacoche.
Oui, un papier.
Un papier, voilà, qui pourrait changer l'histoire des États-Unis. Hein, donc, c'est quand même super important comme papier. Et il y a tout un tas d'autres personnages qui cherchent ce document aussi. Arrive un jeune homme maladroit qui pense sauver une jeune femme, alors qu'en fait, la femme est une complice. Enfin, c'est plein de. Vraiment, on est vraiment dans le western avec tout un tas d'histoires qui s'imbriquent les unes aux autres. Avec ce petit côté totalement décalé de l'irlandais et des textes hilarants. Parce que c'est très, très drôle. Ouais. Tout le texte en lui-même est très, très hilarant aussi.
D'accord, c'est un premier tome aussi.
Oui, Chili con Carnage. C'est le titre donc, du premier tome. Et après, donc, il y en a deux autres.
Est-ce qu'ils arrivent à terminer... est-ce qu'il est arrivé à terminer cette histoire-là ou c'est comme pour Azimut et... Il est pris par d'autres projets et donc ça s'arrête, tu sais pas.
Il me semble peut-être... qu'elle était terminée parce que moi je l'avais lu il y a un petit moment de ça, je l'avais pris donc à la bibliothèque à Mende et il me semble bien ne pas rester sur ma fin à la fin. Donc, j'aurais tendance à dire qu'au troisième tome c'était terminé.
C'est très beau ce que tu dis.
N'est-il pas?
Oui. Voilà. Ok, donc Azimut puis l'homme qui n'aimait pas les armes à feu, voilà deux livres totalement différents. Lupano qui a dessiné
Salomon et Pierry.
Ok. Très bien, merci. On revient sur l'arsenic. Quelle heure il est? Ouais, avant la pause musicale. Qui veut revenir sur l'arsenic?
Moi, toi, avec les branleurs.
Non, le combat ordinaire. Pour la fin. On va garder allez, le combat ordinaire. Le combat ordinaire, qui est le livre qui a fait connaître l'arsenic du grand public,
donc,
on peut dire
je
ça.
Comme je disais tout à l'heure, Fauve d'or en 2004, qui est la plus grande distinction en BD que tu puisses avoir.
Voilà, alors j'étais un peu étonné qu'il ait eu le Fauve d'or. Non, parce que moi je suis pas du tout bande dessinée, mais alors pas du tout. Je suis plutôt fluide glacial que fantasy ou que dessin dramatique, enfin scénario dramatique, comme l'est un peu le combat ordinaire. Donc après avoir lu Les Branleurs, qui est ce livre excellent dont je vais vous parler tout à l'heure, le combat ordinaire, j'ai trouvé, Nico me l'a prêté, j'ai trouvé ça un peu fade. Et quand je me suis dit, ah mince, il a eu le Fauve d'or, je vais relire quand même ce livre parce que. J'ai dû louper quelque chose et en fait oui j'ai bien loupé quelque chose donc mea culpa, je reviens là-dessus. C'est déjà, il faut savoir, une série créée par Manu Larcenet, voilà, c'est pas un livre, le combat ordinaire, c'est toute une série qu'il a écrite et dessinée entre 2003 et 2008. La série qui est donc terminée, ce premier tome qui a obtenu ce prix du Festival International en 2004, ça nous raconte à travers l'histoire d'un jeune photographe de presse qui s'appelle Marco, qui s'interroge sur ce qu'il doit faire de sa vie. Et sur ce questionnement, Larcenet brosse en fait le passage à l'âge adulte, à l'amour, les choix que ça implique sur notre comportement vis-à-vis des autres, vis-à-vis du passé. Et c'est extrêmement bien... amené, je pourrais dire. Je vais pas dire écrit parce que c'est une bande dessinée. C'est extrêmement bien amené. Donc, dans ce premier tome, on voit un Marco en pleine transition vers l'âge adulte. Il garde de son enfance et de sa jeunesse les relations qu'il entretient avec son frère et ses parents. Donc, son frère complice avec qui il se surnomme réciproquement Georges quand il se voit. Georges, en référence à quel livre, Popo?
Pas la moindre idée.
Des souris et des hommes, ah, que tu as adoré. Dans ce livre, enfin, lui, eux, ils l'ont vu en vidéo, ils caressent un lapin en disant « Georges, tu resteras tout près de mon cœur ». Et depuis qu'ils ont eu cette vidéo, il s'appelle « Georges, ça va Georges, ça va Georges ». Et à un moment, il se questionne « Mais pourquoi tu m'appelles Georges ?» Mais tu te rappelles pas qu'on a vu cette vidéo ?« Ah ben, c'est un peu naze quand même ». Ah oui, c'est vrai. Ah, quand même, Georges. Il faut Georges. C'est extrêmement drôle, c'est une relation. Et dès qu'ils se retrouvent, ils pensent qu'un truc, c'est fumer des gros pétards et voir des jeux vidéo. Donc, ils se voient, ils lèvent les bras, ils crient gros pétards, des gros pétards. Parce qu'ils savent que, voilà, ils sont encore, c'est des adolescents à ce niveau du livre.
Et ils ont la vingtaine, c'est ça?
Ouais, c'est pas indiqué, mais je pense un peu plus. Je pense que ça tirerait plus vers la trentaine que la vingtaine. Et donc, Marco, dans ce livre, qui est le personnage principal, a déménagé à la campagne. Il vit à Paris, il a déménagé à la campagne. Donc, on retrouve un peu le thème dont tu parlais tout à l'heure, Valérie, du déménagement de Manu Larsen à la campagne, c'est là où on pense que c'est un peu l'histoire aussi de Manu Larsen, ce Marco. Il y a ses parents, donc je le disais dans cette histoire, ses parents, une mère qui s'inquiète pour son fils, bien évidemment, un père qui tend vers Alzheimer, qui se souvient pas vraiment de ses mots prononcés 2 minutes avant, mais très bien de la robe de sa mère le jour de son mariage. D'où Alzheimer, c'est vraiment la mémoire sélective qui agit sur son père. Relation difficile avec ses parents. Il suit une psychanalyse dont il termine sa psychanalyse au début de ce livre. Il est un peu perturbé parce que il a des crises d'angoisse. Il est hypersensible, il est un peu perturbé, il est en questionnement permanent sur lui-même, sur la société, sur sa vie en général. Et ses réflexions apparaissent à travers les relations qu'il a avec son entourage également, sur certaines pages où on voit juste des dessins qui n'ont aucun rapport. Le trait dessin n'a aucun rapport, voilà Thierry Valérie. Des dessins noirs et blancs de paysages où on voit ses pensées qu'il a, notamment avec son psy, sur les problèmes qu'il a, sur la vie, sur son comportement. Et dans ce livre, il rencontre, grâce à son chat qui s'appelle Adolphe, parce qu'il n'est pas sympa, il fait que griffer tout le monde, donc il a décidé de l'appeler Adolphe. Il se fait mordre par un chien, il l'amène chez le vétérinaire avec une super belle vétérinaire. Donc là, il a honte de lui dire qu'il s'appelle Adolphe. Il dit ouais, mais il est méchant quand même. Et ils tombent amoureux, ils ont une relation. Et là arrivent les problèmes quand cette belle vétérinaire lui demande qu'ils s'installent ensemble. Pourquoi pas faire des bébés? Et cet adolescent se dit ben non, c'est pas ce que je veux, moi je veux vivre à part. Il fait plus de photographie parce que là il en a plus envie, il passe son temps à photographier quand même d'autres choses mais qui ne ramènent pas d'argent. D'ailleurs, il se fait virer par sa boîte. C'était un photographe de pays en guerre où il photographiait, il partait, mais là il a plus du tout envie, donc il fait plus rien de sa vie. Et il finit par quitter cette belle demoiselle ayant peur de l'avenir pour finir à la fin de ce tome, en allant la retrouver, en lui expliquant qu'en fait, il n'y a qu'un seul chose qui lui manque dans sa vie, c'est elle.
T'as spoilé ?
Et je spoil total.
Bah oui, c'est dingue.
Là, je suis dingue.
J'étais en train de lire, je suis au milieu du livre, il la quitte, là tu vas spoiler la fin.
Va à la fin, mais ça, il y a 15 tomes, Valérie.
C'est un peu la loose, du coup, quand même.
T'as envie de foutre des claques,
Dis-nous la dernière bulle.
Oh, c'est trop beau.
Vas-y.
Tout est mieux avec toi que sans.
Voilà.
Il le dit à Adolphe. Non, c'est cool. Ouais.
Voilà, mais il y a 10 tomes, donc c'est que le début. Hein. On spoil pas.
Oui, donc c'est la vie perturbée quand même de cet homme, quoi.
Ouais, la vie perturbée, mais c'est pas tant perturbé que ça. Enfin, lui, il pense qu'elle est perturbée, mais c'est un adolescent en construction, donc avec tout ce que ça implique.
Ouais, voilà.
Il est pas, même s'il suit une psychanalyse, enfin, il apparaît pas plus dérangé que ça dans ce livre.
Il a pas l'air barré,
comme tout le monde.
Oui, c'est les traits tout le monde un peu exagérés par la BD, j'imagine, mais bon.
Et là où Larsen est très fort, c'est que dans ce livre, dans cette bande dessinée, on les ressent, ces rapports humains avec son père, avec son frère, avec cette demoiselle, avec un voisin dont je n'ai pas parlé. Enfin, il y a 2 voisins qui interviennent dans le livre, je vais arrêter de spoiler, donc j'en parle pas. On voit toute cette relation et cette construction, et c'est là où on se dit, ouais, voilà pourquoi il a eu autant de bonnes critiques, ce livre, et cette série de manière globale, parce que c'est vraiment quelque chose, voilà, ça paraît anodin quand on le lit, on finit le livre en se disant, ah d'accord, bon, bah, c'est un adolescent qui a du mal, et en fait, qu'on repense, qu'on se repose dessus, voilà, c'est extrêmement bien écrit. Tu lisais Héloïse Laurentuel, on a tourné un film en 2015.
Ouais.
Alors, je suis allé voir des extraits, ça a l'air excellent comme film, d'ailleurs, je vais de ce pas aller le voir quand j'aurai l'occasion de le voir. Il a tourné un film que sur ce tome 1.
D'accord, il n'y a pas eu de suite.
Non, je ne crois pas. Et je sais pas si la suite, c'est la suite de... J'imagine que c'est la suite de l'histoire de Marco.
C'est la même histoire, oui.
Voilà. Non, ça paraît être que ce livre, mais je sais pas. Il faudra voir le film et je vous le dirai dans une prochaine émission.
Très bien.
Excellent, c'est une heure, on peut faire la pause musicale. Tu as choisi quoi, Héloïse?
Oh, j'avais choisi quelque chose de super et on n'a pas pu le mettre. Donc,
Donc on va écouter The Band. The Band, l'équipe, pour dire Larsonné. Je viens de le trouver à l'instant. Voilà. Nous parlons à la bande. Allez, c'est parti. This mountain, you know where I wanna go. Straight down the Mississippi River to the Gulf of Mexico. The Lake Charles, Louisiana, little Bessie girl I once knew. And she told me just to come on by if there's anything that she could do. Up on Cripple Creek, she sends me if I spring a leak. She defends me a drunkard's dream if I ever did see one. Good luck had just stung me to the racetrack I did go. She bet on one horse to win and I bet on another to show. Odds were in my favor, I had 'em fight. Hey. She tore it up and threw it in my face, just for a laugh. Now there's one thing in the whole wide world I sure would like to see. That's when that little love of mine dips a donut in my teeth. Drop on Cripple Creek, she sends me if I spring a leak. She mends me, I don't have. Allez, on est reparti. Ce combat, Lupano avec notre ami Larsonné. Et on va justement parler d'une bande dessinée qui regroupe les deux auteurs, même s'ils n'ont pas collaboré ensemble.
Pas, c'est pas un regroupement.
C'est pas, voilà. Ils n'ont jamais travaillé ensemble.
Allez, précisez-moi un peu ce livre.
Ces livres.
Il y en a deux. Et donc, vous devez connaître Valérian et Laureline. C'est un classique de la bande dessinée de science-fiction des années 70. C'est de Mézières et Christin.
Voilà, qui a été tourné par Luc, enfin qui a été
qui
sorti
a été adapté, cinéma, oui, ouais. Par Luc Besson cet été là. Il est
gros flop,
il est
malgré un budget considérable. Mm-hmm. Mais
après,
ça,
moi j'ai
Luc
bien
Besson.
Aimé, mais ouais. Mais bon, voilà, c'est mon choix, c'est ouais. mon goût. Mais je suis assez bon public pour ce genre de bande dessinée justement où voilà, il y a deux héros, il y a tout un tas de créatures, tout un tas de mondes, tout un tas d'univers. Mm-hmm. C'est souvent voilà une enquête. Eux, c'est un peu la police de l'espace en fait, Charles.
Valérian
et Laureline, ils sont en couple tous les deux, et voilà, et donc ils vont résoudre en fait des enquêtes à travers l'espace, les dimensions,
à travers
etc.
l'interstellaire.
Voilà, exactement. Et donc il y a tout un tas de personnages qui gravitent autour d'eux, Monsieur Gustave, qui est leur chef de police. Il y a les trois
Shingulous.
Les trois Shingulous qui sont des créatures.
Shingulous, pardon.
Très intéressés et qui font tout contre voilà, ouais. Et qui troquent à longueur de temps et qui font des magouilles à longueur de temps.
Mais adorables.
Voilà, adorables et très drôles et qui traînent souvent avec Valérian et Laureline. Mmh. Donc, pour vous situer, donc voilà, ça c'est le Valérian et Laureline classique des années 70. Et c'est une BD, mais qui a énormément inspiré les auteurs de bandes dessinées d'aujourd'hui.
Mais alors, Héloïse, une question me vient. Qu'est-ce qu'ont à voir Larsenet et Lupano avec Valérian ?
Oui.
Eh bien, récemment, il y a un mois, Lupano a sorti son Valérian.
Il a le droit c'est de faire ça ?
Bah, c'est, a priori,
il a repris, c'est un hommage.
C'est un accord.
Ah, c'est un hommage.
Voilà, il y a plusieurs, voilà, plusieurs auteurs de BD qui ont... puisque Larsenet a fait pareil, du coup.
Oui.
Et qui ont repris donc, l'histoire donc, de Christin et Mézières, donc Valérian, et qui ont fait une histoire parallèle, en fait. Ils n'ont pas repris une des histoires qui avait déjà été faite.
Qu'on comprenne bien, voilà. Ils ont repris les personnages, ils ont créé leur propre histoire. C'est ça ?
Voilà. Ouais, les personnages ont été
parce
repris.
Que l'histoire originelle, c'est plusieurs tomes, c'est qu'une...
Il y a beaucoup de tomes.
Dans les années 70. Série, ouais. C'est ça, d'accord. Okay.
Et là, tu retrouves les mêmes personnages, mais vus par leurs yeux, vus par leurs crayons.
Un nouveau point de vue, ouais. Ouais. C'est vraiment des hommages hein, de toute façon hein, parce qu'ils sont fans effectivement de cette série et c'est un vrai plaisir pour eux que ce soit Lupano ou Larsenet d'adapter ce grand classique. Donc on va peut-être commencer par parler de l'histoire de Lupano qui est sortie récemment sur Valérian dont le titre est
Shingulous Inc. En fait c'est les trois petits amis de Laureline et Valérian donc qui sont cupides, qui sont joueurs, qui ont un peu tous les vices en fait. Qui ont perdu aux cartes la terre, juste ça.
Flûte.
Voilà, donc c'est un petit peu embêtant. Donc Laureline et Valérian sont un peu embêtés
et en colère
et un petit peu énervés, ouais. Et donc ils rencontrent, il faut qu'ils récupèrent un robot qui dans sa mémoire interne a deux paradis fiscaux. Dans sa carte mémoire qui est dans sa tête. Et là, ça, tout part en live, tout part en Lupano, si je puis dire, puisqu'on va rencontrer un majordome robot qui s'appelle Monsieur Albert, qui roule en 4L interstellaire. Le pauvre Albert se fait manger la tête par une baleine parce qu'il est en train de pêcher une baleine super rare. Donc du coup, la carte mémoire est partie avec la baleine. Du coup, en fait, il avait Albert, avant de se faire manger la tête, déjà vendu cette baleine hyper rare qu'il était en train de pêcher. Enfin, tout part en cacahuète. Donc, et Valérian va, comme à ses habitudes, réussir à sauver la planète.
Oui, il se retrouve entre tout un tas de missions diverses et variées. D'un côté, il y a Laureline aussi qui a un sacré caractère et qui... Lui gueule dessus toute
la
journée.
Elle est agaçante, Laureline.
Laureline est assez agaçante, ouais. Et lui, voilà, le pauvre Valérian, comme d'habitude, va se débrouiller avec les moyens du bord et va être très créatif.
Elle est agaçante dans tous les livres ou que dans la version de Lupano ?
Moi, sur la version de Larsenet, j'étais un peu triste pour elle, sur la version de Larsenet.
Pourquoi ?
Dans la version de Larsenet, non, même pas. En fait, Valérian a été capturé, alors c'était pas suite à des bêtises des Shingulous, là, mais il a été capturé et en fait... Dans celui de Larsenet, il a été capturé.
L'armure du Jacolas.
Voilà, et en fait, justement, il faut qu'il retrouve le Jacolas suprême.
Oui, le Jacolas, qui est une espèce d'extraterrestre qui ressemble à une étoile de mer.
Le copain de Bob l'éponge,
Patrick,
Et qui a une armure invincible.
Alors non,
oui. Ouais. Mais bon, alors du coup, là, dans l'armure de Jacques Aulas, Valérian a été donc permuté dans un autre corps par son ennemi suprême. Il a été permuté dans le corps d'un humain assez insignifiant qu'on retrouve en fait au début du livre chez Francisque, bar.
Le bar du livre chez Francisque.
D'accord, parce que j'allais te demander, parce que c'est vraiment un personnage de bar, Valérian, et on s'est dit, est-ce que Larsenet a fait exprès de le dessiner comme ça? Non, c'est que... voilà.
Et donc l'âme de Valérian est dans ce corps de poivreau, de comptoir, etc. Et donc, Laureline va le chercher, va le chercher, elle le retrouve enfin, et donc elle le ramène dans l'espace pour pouvoir permuter à nouveau son corps. Et donc, on suit ce Valérian qui a un tout autre aspect physique et qui est super. Pas. Et c'est très, très drôle. Moi, je me suis vraiment marrée sur celle-là.
Et puis la chute de celui-là, la chute est fameuse. Mais j'ai rigolé.
Arrêtez de spoiler.
Ah non, non, mais la chute est fabuleuse.
Valérie, tu spoil tous les livres.
Non, je dis juste que c'est drôle ou triste. Non, non, mais là, la fin, moi, je m'y attendais vraiment pas.
C'est énorme,
Mais j'ai rigolé. Je crois que je rigole encore.
D'ailleurs, quatrième de couverture, on voit Jean-Claude Mézère et Pierre Christin qui disent « Merci Manu pour cet album à la fois sidéral et sidérant ».
Ouais, c'est ça.
Ah, donc, c'est quand même pas mal comme hommage.
Le côté space opéra est quand même bien respecté par rapport au Valérian originel. Et il y a le côté Larsenet drôle avec graveleux comptoir, le gars fait quand même des manques d'alcool, il en a des crises
d'hallucination, il a des déliriums très minces,
c'est fabuleux, et tout ça s'imbrique très bien. Alors imbriquer le personnage de chez Francisque avec quand même l'histoire de Valérian et Laureline.
Oui, le côté science-fiction, etc.
Ben là, c'est réussi.
Et oui, et la pauvre Laureline, du coup, elle se retrouve avec un petit gars, avec le nez rouge, chauve. Mais voilà.
Alors que Valérian, c'est un beau gosse habituellement.
Tout à fait, oui. Précisons.
Ceci dit, elle refuse de l'embrasser pendant tout le... Non, c'est vraiment une...
Ah, c'est excellent, ouais. Mais les deux belles, en fait. Ouais. Sont vraiment chouettes.
Alors,
donc voilà, adaptation de Valérian pour Lupano et pour Larsenet, très réussie.
Alors Lupano, tu disais il n'y a pas longtemps, l'adaptation de Larsenet, c'est quand? On sait ou pas?
Oh, je sais pas.
2011, sur...
2011.
Ouais, il me semble avoir vu ça dedans.
Bon, ben oui, c'est il y a plus longtemps. Donc ils ne sont pas entendus pour se dire on fait une adaptation, c'est chacun à un moment donné de sa
carrière. C'est pas à la même période,
carrière,
là, le Valérian de Lupano, il vient juste de sortir, hein, donc voilà.
Ouais, mais c'est marqué dans le Valérian de Lupano, c'est marqué. Non, on l'a pas là. Mais il me semble qu'à la fin du Valérian de Lupano, c'est marqué que Valérian a été aussi refait par Larsenet. Donc c'était fabuleux là pour l'émission d'avoir deux Valérians repris par les deux auteurs dont on parlait. Mmh.
Excellent.
Tout à fait.
Ouais. Mmh. Et c'est très 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 chouette.
Du coup, on parlait de chez Francisque. On pourrait peut-être enchaîner.
Allez, on va
Pauline,
enchaîner.
Avec chez Francisque, qui est une BD de Larsenet et Lindingre.
Lindingre, ouais. Du coup, là, on est chez Flûte Glaciale, donc déjà, ça annonce un peu la couleur. Et mais pour ceux qui aiment Flûte Glaciale, je pense que vous ne serez pas déçus. Donc, c'est des BD avec une BD avec à chaque fois une planche par histoire. C'est des histoires courtes. On se retrouve avec deux, trois copains qui sont autour d'un verre et qui ont une discussion extrêmement philosophique. Ça commence toujours par un petit proverbe retourné en version alcoolisée, par exemple. Proverbe du jour, autant en emporte le vin, par exemple. Voilà, des petits jeux de mots autour de soit de titres célèbres, de proverbes, voilà.
Bon sang ne saurait mentir. Passer 3 grammes, il ne saurait conduire.
Proverbe.
Et ça engage à chaque fois le.
Oui, ça lance un peu la BD. Donc, c'est des thématiques qu'on imagine très bien dans le bar du coin. Voilà, deux gars qui discutent un peu sous, qui parlent de l'éducation aujourd'hui, des jeunes avec leur téléphone, des homosexuels qui se pavanent dans la rue, et puis des... Alors tout y passe, hein, vraiment, il y a aucune limite. Là où le côté gras peut faire marrer, moi, là où ça a été, où j'étais peut-être un peu mal à l'aise, c'est que c'était peut-être trop vrai. Et du coup, on s'attend trop à entendre ça... en allant dans un bar et on se dit bon là il faudrait vraiment qu'il nous montre qu'il faut en rire, que là il se moque.
Après c'est presque une chronique sociale on va dire, hein, parce que c'est des choses qu'on entend et qu'on entend qui reporte en fait tout à fait de manière assez véridique, hein. Je pense que c'est des choses qu'on peut tout à fait entendre et ça m'étonnerait pas qu'il l'ait entendu lui-même, quoi.
Et qu'on, et puis on l'en, nous-mêmes, on l'entend, en fait. C'est deux choses qu'on, qu'on voit, qu'on...
Alors, est-ce que c'est censé faire rire ou justement, est-ce que c'est censé, voilà, c'est dénoncer pour, aussi quelque chose, je sais
pour,
pas.
C'est pour faire rire, mais c'est vrai que, par exemple, dans une discussion, tu parles avec quelqu'un et puis tu vas avoir le refrain sur, ben, par exemple, là, c'est, ils font un refrain sur le service militaire. En disant le service militaire, c'était le bon temps. Tu vas dans un, rencontrer quelqu'un, il va avoir un avis différent de toi, il va dire ah, c'était le bon temps, machin. Point. Là, ce qu'il y a, c'est que tu vas avoir le service militaire qui va en prendre. Après, tu vas avoir, ouais, les jeunes, ils veulent plus travailler. Après, ça va être, ouais, ça sera
le
machin.
Après, t'as du racisme,
t'as de l'homophobie, pas mal l'homophobie, tu sais. Et vraiment, tout ce que tu. Mais vraiment, les bofs du coin, quoi, et qui sont.
Précisons que c'est pas du tout la vie de voilà, la vie de l'auteur, c'est pas du tout.
C'est
vraiment, il reporte quelque chose, une réalité, ouais, effectivement.
Bah, c'est du fluide glacial.
Mais on n'est plus habitué à avoir tout ça en condensé. Enfin, ça fait mal aux yeux de voir.
Oui, c'est vrai que ça fait mal, effectivement, parce que tu te dis, oui, c'est la réalité. Voilà, c'est la réalité de ce que des gens pensent et affirment tout haut dans les bars ou ailleurs.
Ok, d'accord, sur ce livre. De toute façon, voilà, en achetant un livre de Fluide Glacial, on sait à quoi s'attendre.
Tu sais que ça ne va pas être très poétique tout le temps.
Voilà, automatiquement.
C'est pas un livre de branleur.
Voilà, merci de ce lien, Valérie. Exactement, pour finir, enfin pas pour finir, je ne sais pas si vous avez d'autres livres à présenter, mais peut-être sur Manu Larcenet, sur Les Branleurs, donc livre qu'il a aussi écrit. Là, il a écrit, il a dessiné, mais il a co-écrit, co-dessiné avec Eric Salche, voilà, qui se dit Salche, qui s'écrit Salche. Est-ce que quelqu'un connaît Eric Salche ?
Non.
Eric Salche, c'est un dessinateur qui se fait connaître pour Lookbooks. Alors, il avait dessiné sur les réseaux sociaux un hipster, ce qu'on appelle un hipster maintenant, en mettant des petites flèches, en mettant barbe bien rasée de con, chaussures de merde, etc., etc.
Bah, merde, on dit un crêpe.
Voilà, mais il est assez, il insulte beaucoup Eric Salche, et ça fait le buzz sur Internet, et il s'est rendu compte que du coup, ben, il s'est vachement fait insulter lui-même. Où il y a beaucoup de gens qui ont aimé, donc il s'est dit, bah, tiens, je vais continuer, je vais dessiner, parce qu'il aime bien ça, se faire insulter, Eric Salch. Et il a dessiné, mais qu'est-ce qu'il a dessiné après, d'autres personnages, etc., etc. Il en a fait un songbook, donc dessinateur qui n'a pas la notoriété de notre ami Larcenet, mais qui commence à se faire connaître.
Mais alors, quel lien avec Larcenet ?
Alors justement, c'est un peu l'histoire du jeune loup, de la bande dessinée, de la star internationale, du génie en devenir et de l'auteur confirmé. Et donc, ils ont dessiné ensemble Les Branleurs. Alors, ils entament cet ouvrage édité par Les Rêveurs, on en parlait tout à l'heure. Une coopération qui sonne un peu comme un défi, qui sera le plus drôle, qui sera le meilleur dessinateur. Au point de départ de cette histoire, on trouve un Manu Larcenet désemparé, un peu perdu, dans un vide artistique, qui appelle comme à son habitude son fidèle ami Jean-Yves Ferry, qui est un scénariste reconnu, avec qui il a déjà travaillé sur différents ouvrages. Alors il pense pouvoir trouver en lui les ressources nécessaires pour rebondir, mais Ferry, s'il est prêt à prodiguer ses sages conseils, est fort occupé. Pensez-vous, il a une aventure d'Astérix à scénariser. Donc, il explique bien à Larcenet que ben, il va pas pouvoir travailler avec lui sur ce coup-là parce qu'il a des projets un peu plus grands que travailler avec Manu Larcenet, même si Manu Larcenet est rentré quand même dans le paysage culturel français comme un dessinateur de talent. Alors, il pense, Manu Larcenet, à Eric Salche, qu'il aime bien, même s'il ne lui dit pas, il faut pas qu'il lui dise, comme on aime un petit jeune dans lequel on se reconnaît un peu. Alors, il l'appelle, il lui propose de faire un livre en commun. C'est le début de cette histoire, et ce qui est pas simple, un risque pour une star internationale. Eric Salche est quand même l'homme qui salit tout. Voilà, on retrouve ça comme dans ses lookbooks. Il pourrait bien salir une carrière, mais on va quand même lui proposer. Alors, bon an, mal an, les échanges commencent. Donc, c'est un mode un peu épistolaire. Salche et Larcenet s'envoient à tour de rôle quelques planches, donc sur un rythme d'abord soutenu, puis de plus en plus lâche. Alors, chacun exprime son caractère, donne libre cours à son humour, manie son trait avec dextérité. Alors, c'est drôle parce que Larcenet, on l'a dit, il a beaucoup de dessins différents. Là, c'est un dessin très joli, assez rond, assez fluide, assez beau. Et Salche, l'homme qui salit tout, au contraire, c'est des dessins, des petits bonhommes qui c'est un peu du grabouillage, voilà. Et c'est marrant parce qu'on voit comment Larsenet dessine Salch et se dessine lui-même, et comment Salch se dessine lui-même et dessine Larsenet. Donc on trouve les deux versions, la version un peu sale et la version propre de Larsenet. Donc c'est déjà extrêmement joli à voir et c'est extrêmement drôle. Alors ce Salch, il se dit mais je vais pas me laisser faire, bien que ça soit Larsenet, il faut que j'impose ma patte. Donc je vais imposer un dogme. Un dogme à laquelle Larsenet, contre toute attente, il se laisse embrigader, même si sa vie quotidienne et sa liberté de création doivent en pâtir. Donc le dogme, c'est règle, on parle pas du dogme. Dogme, on va pas se balader nu dans la forêt pour chercher des histoires à écrire. On fait pas l'amour avec sa femme. Alors il va pour faire l'amour avec sa femme, Larsenet, elle lui dit non, le dogme, n'oublie pas. Tout le long, voilà, alors Salch, il pose ses conditions pour agresser Larsenet. Donc jusqu'au milieu du livre, ça se passe très bien. Ils s'échangent un peu à tour de rôle. Et arrivé au milieu du livre, ça commence à tirailler. Salch commence à en avoir marre, on dit mais il se prend pour qui? Il met 2-3 semaines à écrire des planches et 2 heures après, Larsenet lui renvoie les siennes. Donc il pète un boulard, il dit c'est pas possible, il se fout de moi, je galère, et lui il me renvoie de suite ses planches. Donc il commence un peu à s'agresser mutuellement, et donc ça commence
la mayonnaise monte.
Donc ça commence à devenir assez drôle, et là il y a un gag qui est énorme. Je vais te reprendre le livre, Popo. Donc tout le long ça m'a fait sourire, il y a vraiment un gars qui m'a fait rire, donc il faut quand même que je vous le raconte. Donc la mayonnaise commence à monter, Salch en peut plus, il arrive pas à écrire ses pages, et donc là il lui envoie quelque chose, il lui envoie par SMS, il reçoit un SMS de Salch et il voit, alors c'est en tout petit, on n'arrive pas à lire ce que le dessin de Salch, c'est en tout petit sur la page, et là Larsenet dit mais merde, c'est hilarant, c'est quasiment le gag du siècle. Le gars est trop fort, il va me faire passer pour un débutant, un has-been. J'entends les colibés de la presse à scandale. Larsenet se la fait mettre au cul par un petit jeune. Sans Eric Salch, ce livre n'aurait été qu'un Larsenet de plus. De plus, deux solutions s'offrent à moi. Soit je me reprends en main, je travaille comme un bœuf jour et nuit pour tenter d'accéder à son niveau, ou alors... Et là, on voit Larsenet qui envoie un SMS à Salch. « Cher Eric Salch, tes deux dernières pages sont trop pourries pour figurer dans notre livre. Reprends-toi en main, vieux, tu dois travailler comme un bœuf jour et nuit pour tenter d'accéder à mon niveau. » Donc ça, c'est déjà drôle. Alors Salch reçoit ça, et il dit genre, donc avec le dessin de Salch qui est un peu agressif, petit, il dit genre, il me donne des ordres, personne ne me dit de ce que je dois faire. Donc il dessine Larsenet, donc voilà, Larsenet, il est dessiné comme un gros bonhomme, un peu pato, avec un titre Manu Larsenet dans La Malédiction, en disant le dogme était pourtant très clair, pas de putain de balade en forêt avant la fin du livre. Et là on voit Larsenet qui se balade, et la malédiction c'est qu'il pond un œuf. Il pond un œuf, voilà, il pond un œuf par son anus. Bref, donc sur ce, Larsenet reçoit ses pages, et donc Larsenet est donc il pond un œuf, et de l'œuf, il y a Eric Salch qui sort de l'œuf. La coquille explose, c'est Eric Salch. Alors, Larsenet reçoit les pages, il dit « Un œuf ? Je chie un œuf dans la forêt ? Allégorie, délire éthylique, message caché ?» Alors, il réfléchit, il est aux toilettes, parce que dans ce livre, il va beaucoup aux toilettes, il aime bien faire caca. « Un œuf de Salch en plus ? Et je lui donne un asticot avec ma bouche ?» peut-être qu'il tente de me dire quelque chose, mais quoi? Il réfléchit, et là, il s'endort en rêvant d'un œuf à la coque. Et là, on arrive à Salch, c'est la page de Salch qui dit, quoi, 15 jours pour me renvoyer 2 pages, il se fait pas chier, et en plus, il se contente de commander ma BD. Mais vraiment, il se fait pas chier, mais si c'est ça me faire chier, moi aussi, je vais commencer, gna gna gna, mais que veut-il me dire? Je comprends pas ce qu'il m'écrit. Quand il bosse avec Ferry, vous croyez qu'il fait sa branlouse comme ça? Je parle avec Ferry. Donc, c'est Salch qui dit ça. Et donc, là, il imagine, il écrit Larsenet dessiné.
On a perdu 14 auditeurs.
Il dit 15 jours pour faire un cercle. Donc, il pète un boulard, il dit, ça y est, j'ai une idée. Et donc, il dessine Larsenet en énorme avec lui dessus, en disant, un Larsenet, c'est pratique, on peut dormir dessus, on peut en faire un véhicule, on le voit dessus. Le gag arrive, attendez, c'est un peu long, mais le gag arrive. Ça peut faire un parapente, on peut faire un bateau. Et ça finit...
Ça spoile pas.
Ça finit par une ellipse.
Oh, où, c'est dégueulasse.
Où Larsenet...
Non, c'est affreux.
Chie Salch, donc par son anus, comme l'œuf. Et donc là, l'arsenet reçoit ses pages et il dit, vous avez un message de Salch, donc il reçoit, tiens, prends ça dans ta face, signé Eric Salch. Et donc il voit cette page où ça finit comme ça. Il se dit, mais c'est pas possible. Donc on le retrouve chez son psy où il dit, c'est à cause d'Eric Salch, docteur, encore? Oui, il me fait chier, encore? Oui, non, mais là, littéralement, cette fois, il me dessine en train de déféquer. Il avait commencé à me dessiner en train de déféquer un œuf bizarre dans la forêt, tout seul, pire qu'un chien. Comme je pigeais rien à son histoire, j'ai tenté de l'amener à se poser des questions sur son propre travail. J'ai délicatement suggéré que son merdier était un peu confus, comme le ferait un maître avec son élève, préférez-vous, vous voyez. Et là, voilà qu'il se met à râler comme un goré, met en doute mes compétences, insulte mes lecteurs, et il me dessine en train de le chier, lui. Et là, le psy se met à rire. Voilà, c'est les branleurs, c'est ça tout le long, quoi. Donc je vous le conseille forcément. Pas gros coup de cœur, mais c'est excellent, c'est très drôle. Voilà, quand on arrive aux autres livres, ça n'a aucun rapport. C'est du fluide glacial, voilà, ça reste, comme c'est du fluide glacial, entre guillemets, ça reste qu'il y a beaucoup d'insultes, il y a beaucoup de... c'est un peu vif, il y a un peu beaucoup de caca, mais c'est pas, il y a pas d'homophobie, il y a pas de tout ça. Oui,
t'as pas ce côté-là, c'est un règlement de compte. Je pense que c'est quand même assez intéressant cette vision d'eux-mêmes et de leurs relations, etc. Je trouve ça quand même assez intéressant cette mise en abîme dans une BD.
Exactement.
Voilà, hyper affectif.
Oui, tout à fait. Oui.
Et le fait qu'il a appelé Eric Salch à un moment où il commençait à te connaître, mais c'était pas non plus une star incontournable du dessin comme les Larsenet, et c'est bien ce qu'ils expliquent au début sur cette double page où donc il y a un passage de Manu Larsenet, le mot des auteurs, et un autre d'Eric Salch où chacun parle justement comment ils se sont rencontrés, comment est arrivé ce projet.
C'est cool. Très bien,
c'est à vous
les vieux fourneaux.
Ah bah oui, si vous voulez
on peut... Allez, Bobo.
Ah, c'est moi qui vais. Ok. Eh bien, écoutez, les vieux fourneaux. Alors, moi, j'ai lu le tome 3 et un petit bout du tome 2. Mmh. Et en fait, c'est l'histoire de... Ils sont 3, 4 ?
Mimile, Pierrot et Antoine.
Ouais, voilà. Trois petits vieux qui ont tous un peu leur caractère particulier. Il y a un peu le militant. Il y en a un deuxième qu'on voit un peu moins dans le tome que j'ai lu, que je connais un petit peu moins bien.
Oui, qui est un ancien rugbyman qui a beaucoup voyagé en Nouvelle-Zélande, etc. Et qui est le plus calme et le plus nounours de la bande, je dirais.
Et donc leur troisième copain, enfin voilà, ils vivent ensemble dans la maison de la petite fille d'un des trois, si j'ai bien compris. Moi, j'ai pas le contexte, alors je suis pas sûre d'avoir.
Oui, c'est la petite fille, effectivement, d'un des vieux, d'un des protagonistes, et qui habite avec eux et qui les aime beaucoup et qui a une relation particulière avec eux.
Et donc dans le tome que j'ai lu, ils ont une relation avec une voisine, il y a des petits événements qui se passent autour de la voisine, mais c'est surtout, bon, je pense qu'il y a une histoire pour ficeler, pour justifier peut-être un peu la publication d'un tome, mais c'est surtout, on voit ce qu'ils font de leur journée, on voit leurs discussions, ils sont sympathiques, ils ont tous leur petit caractère bien trempé, ils ont une expression sympathique, c'est des petits vieux avec qui on a envie de passer une journée, avec qui on a envie de discuter, parce qu'ils ont une histoire derrière eux, ils ont chacun leur petit côté particulier, alors moi je pensais qu'ils allaient être un peu touchants, je me disais, oh, ça va être des petits vieux qui vont être mignons. Non, c'est pas des petits vieux mignons, c'est des petits vieux sympas, avec qui, voilà, tu sens qu'ils ont vécu et t'as envie qu'ils te racontent ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils vivent toujours en plus. Donc c'est ça qui est plutôt sympathique. Ils ont de l'humour, ils sont, ils se font des remarques, ils se rentrent un peu dedans, des fois, c'est plutôt sympathique, on passe un bon moment avec eux.
Tout à fait, oui. Oui. Et
est-ce qu'il défèque des œufs?
Non,
pas si loin.
Ça va pas là-dessus.
Il se déguise en abeille.
Déjà. C'est pas mal.
Mais après, effectivement, oui, c'est le quotidien de cette bande-là avec la jeune fille qui les accompagne. À chaque fois, il y a une histoire, une trame, en fait, souvent en rapport avec leur passé, avec leur jeunesse, parce qu'ils se connaissent depuis qu'ils sont tout ados. Et voilà. Et c'est un énorme succès, les vieux fourneaux. C'est vraiment quelque chose qui... On s'y attendait pas, personne ne s'y attendait. Et là, c'est incroyable le succès que ça a. Il se méritait parce que même si moi, je suis pas fan des dessins, forcément, je trouve ça un peu classique, un peu... Voilà.
Oui, c'est classique, ouais.
Mais au niveau de la trame, c'est vraiment original, c'est très drôle. Et voilà, c'est assez inédit comme histoire, on va dire.
Oui, trois petits vieux en héros, c'est pas quelque chose qu'on voit couramment. Ouais, c'était voilà. Plutôt sympa, bon moment, ouais.
Et donc oui, le tome 4 sort en novembre, donc pour Noël, pas de surprise. Et donc ils font tout un, enfin c'est quasiment du jamais vu. Ils font tout un tas de produits dérivés, des t-shirts, des mugs, des manettes de frigo. Enfin
ça
voilà,
marche
c'est, ça marche à ce point-là. Ouais.
C'est assez long quand même à sortir. Alors c'est quoi, c'est tous les ans, tous les deux
ouais,
ans?
Ouais, un par an à peu
c'est
près.
Un par an.
Enfin, un par an et demi, deux ans quoi. Hein, ouais.
Et les histoires se suivent ?
Oui, ça se suit,
oui,
ouais.
Donc,
après, plus, après non, on peut commencer par le 2, par le 3, etc. Mais après, on suit les personnages dans leur vie au fur et à mesure des
oui.
années. Ouais.
Moi, j'ai lu directement le 3. J'aurais aimé lire les premiers pour mieux les connaître, quand même. Je vous conseille peut-être, parce que j'ai pas été perdue dans l'histoire. J'ai suivi, j'ai compris que, voilà, qu'ils étaient chez la petite fille de l'un des trois. Mais j'aurais aimé peut-être plus de temps pour les connaître avant. Mmh. Ce qui doit se faire sûrement dans le tome 1, en fait.
Oui, 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 tout à fait. Ouais.
Valérie rigole. Elle raconte nous,
Valérie,
c'est quoi le gag ?
Tu les as lus, toi aussi ?
Moi, j'avais lu le premier, mais ce qui m'a remarqué, c'est plutôt les dialogues, pareil, c'était...
incisif.
Ils étaient incisifs, ouais. Ouais. Cette,
Raconte-nous, là, ce qui te vient de
non,
faire
non,
rire.
Non, là, je regardais, il y a beaucoup de choses qui m'ont fait rire sur les quatre pages que j'ai lues. Là, ils expliquaient le principe du vie à jeune, qui est l'inverse du vie âgé, en fait. Voilà, c'était très drôle, en fait. Ils hébergent des tas de jeunes au lieu de... Voilà.
Okay.
C'est, non, mais c'est la façon dont c'est fait. Après, un meeting de Jean-François Copé aussi, qui est un peu perturbé par des personnes.
Ah, d'accord, il y a des personnes
Alors, il n'y a pas marqué Copé, pardon. Il y a marqué Standing Ovation à Jean-François Copé. Et il est interrompu par...
Ah, d'accord. Okay.
Une flatulence.
Très bien.
Donc, okay. Les vieux fourneaux, super. Ouais.
Voilà.
Pas hésiter aussi.
Très
donc,
bien.
Qui a gagné ? Vous préférez qui ? Vous votez pour qui ?
C'était la question à laquelle je voulais pas que, la question que je voulais pas que tu poses.
Moi, je...
Vous n'avez pas de préférence ?
Ah si, moi.
Sur ce que vous avez vu ?
Ah si, Popo, elle a une préférence.
Ah ouais, Lupano...
Lupano ?
Au la main.
Oui, sans compter que Lupano avait fait Un océan d'amour aussi, dont on avait parlé,
ouais,
qui est une BD sans parole magnifique qui se passe en Bretagne, en partie. Voilà.
Après, on ne peut pas comparer un dessinateur, un scénariste, c'est pas possible. Ça marche pas comme ça.
Ah, je sais pas, on peut tout comparer si on veut, si on est chez Francisque.
C'est vrai.
On va couper les micros alors si on doit aller chez Francisque.
Ok, bah, allez, on va dire égalité.
Ouais,
allez.
Égalité parfaite.
Ok, Popo, ça te va ?
Non, elle est pas d'accord.
Elle est pas d'accord, c'est pas grave.
C'est vrai qu'elle a été choquée.
Un océan d'amour fait mettre la barre vachement haut. Si,
pourquoi
si
on l'a pas présenté un océan
d'amour ? Parce qu'on en a déjà parlé.
Et oui, d'accord. On
en a déjà
parlé.
C'était une BD, mais sans parole.
D'accord, mais on avait déjà parlé des vieux fourneaux aussi, on en reparle.
Ouais, mais c'était Nico et comme il est plus malin, ça rappelle.
On comprend pas toujours en plus quand il présente.
Voilà.
Non, mais lisez les deux et faites-vous votre avis parce qu'ils ont des styles totalement différents et au sein même de leur travail, il y a des choses très différentes. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts, je pense.
Ouais.
Là, dans deux semaines, on retrouve quoi, Héloïse ?
Alors, on va parler de biodiversité, d'animaux, d'environnement, un sujet très important et pour autant très ludique et très, très chouette.
On va se marrer. Waouh. Ok. Il y a une grosse surprise dans un mois, on ne vous dit rien encore, mais il va y avoir une grosse surprise dans un mois. C'est un kiff spécial, Valérie et Popo. Vous verrez,
exact,
c'est la surprise.
Ouais, je l'avais oublié.
Allez, on vous laisse. Ciao, merci d'être resté à l'écoute de cette émission.
Au revoir.
Et la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein la rue, plein les commissariats, plein les directionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Des livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.